the fact that today's Supreme Court ruling just coming out, a tremendous success, a tremendous victory for the American people and for our Constitution.
Alors, la décision a été prise à la Cour suprême à la majorité de 5 juges conservateurs contre les 4 autres progressistes. La Cour suprême valide, Raphaël Jacob, le décret anti-immigration de Donald Trump.
Là, il faut préciser qu'on ne parle pas du décret qui a été signé la semaine dernière dans le dossier de la frontière mexicaine. Il faut rendre ça très, très clair. On parle d'un des premiers actes, en fait, qu'avait posé Donald Trump comme président, une semaine, en fait, jour pour jour après son inauguration, après son investiture en janvier 2017. Le fameux décret migratoire qui interdisait notamment aux ressortissants de 6 pays, l'Iran, la Corée du Nord, la Libye, la Somalie, la Syrie et le Yémen, d'entrer aux États-Unis sur une base temporaire. C'était un décret qui était temporaire. Je le dis parce que, peu importe le verdict d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va entrer en vigueur à vitam aeternam. C'est vraiment très, très, c'était très limité dans le temps. Donc, je t'explique la décision parce qu'elle est fascinante. D'un côté, tu as la majorité, les 5 juges plus conservateurs, qui affirment que la loi fédérale américaine existante donne clairement au président, tout président, que ce soit Donald Trump, que ce soit qui que ce soit, le pouvoir d'imposer des restrictions sur l'immigration pour des raisons de sécurité nationale si le président les juge nécessaires. Donc, peu importe comment le président, encore une fois que ce soit Donald Trump ou un autre président, arrive à la conclusion que les ressortissants de certains pays posent une menace potentielle, eh bien, il a le droit unilatéralement, sans le Congrès, d'agir et d'imposer certaines restrictions. Et c'est exactement ça qui s'est produit dans ce cas-ci. Donc, la majorité de 5 juges dit que la loi donne le pouvoir au président. De l'autre côté, tu as les 4 juges plus libéraux, plus à gauche, qui affirment que les déclarations faites par ce président-ci, pas n'importe quel président, mais ce président, Donald Trump, à la fois en campagne, alors qu'il est un candidat présidentiel, et depuis le début de sa présidence, suggèrent très fortement que, en fait, le président était animé davantage par une animosité anti-musulman que par des considérations de sécurité. Tu te rappelleras tous les propos controversés pendant la campagne et même des aveux là, à peine cachés depuis le début de sa présidence que ce décret-là était en fait un « Muslim ban », une interdiction contre les musulmans. Et donc, la minorité dit « Ouais, peut-être que la loi lui permet de faire ça, mais il faut que ce soit pour des raisons de sécurité. » Et là, clairement, c'est pour des raisons de discrimination religieuse qu'on agit. Donc, c'est vraiment pas évident.
Alors, de toute façon, ça ferme des frontières à environ 150 millions de musulmans dans les pays que vous venez de mentionner.
Et je le répète, sur une base temporaire. Je te parle aussi, je prends une minute pour te parler d'une autre décision extrêmement importante rendue aujourd'hui, encore une fois, à la Cour suprême. Une autre décision également à 5 contre 4. Donc, pour toutes les fois, Paul, que je t'ai dit que c'était important les élections présidentielles parce que le président qui était élu avait un pouvoir de nomination judiciaire et que ça pouvait faire la différence à la Cour suprême, bien là, on a un autre exemple. Le fait que Donald Trump ait gagné et ait pu nommer un 5e juge conservateur, eh bien, c'est encore un résultat important aujourd'hui. Donc, la Cour qui vient invalider, donc vient renverser une loi controversée adoptée par l'État de la Californie, qui forçait des cliniques encourageant les femmes ayant une grossesse non désirée à faire adopter leur enfant ou à tout au moins là, à le garder, en plus d'avoir à afficher des informations concernant la disponibilité de services d'avortement. Autrement dit, tu avais des cliniques essentiellement anti-avortement et l'État les forçait à diffuser à l'intérieur de la clinique des messages pro-avortement. Donc, il y avait eu poursuite et là, la Cour dit: vous n'avez pas le droit de faire ça. L'État n'a pas le droit de faire ça parce que ça brime le premier amendement, la liberté d'expression, en forçant les gens opérant cette clinique-là à diffuser des propos allant directement contre leurs croyances et leurs valeurs personnelles. Donc, c'est extrêmement intéressant et je te dis déjà à l'avance qu'on en a au moins une autre très grosse décision de la Cour qui va tomber d'ici la fin de la semaine qui touche le pouvoir syndical aux États-Unis. J'ai déjà hâte de t'en parler.
Ça va être à surveiller, effectivement. Dans la foulée de la crise à la frontière mexicaine, on assiste de plus en plus à une guerre de mots incroyable, acrimonieuse, agressive, entre le président et, évidemment, ses critiques, ses détracteurs.
Bien, t'as entendu parler, comme moi, Paul, tout au long de la fin de semaine, de l'épisode de Sarah Sanders.
Bien sûr.
La porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'est fait essentiellement expulser d'un restaurant de la Virginie, pas loin de Washington, à cause de ses croyances politiques, en fait, à cause du fait qu'elle travaille pour Donald Trump. T'as aussi, en parallèle, une espèce d'effort coordonné de manifestants anti-Trump qui se rassemblent devant la maison, la résidence privée de la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, donc une membre du cabinet Trump, Mme Nielsen.
Une autre femme qui avait été apostrophée dans un restaurant mexicain la semaine dernière.
À Washington, effectivement. Et dans ce cas-ci, on essaie carrément de l'empêcher de dormir la nuit. Là. C'est assez agité, merci. Et là, tu as eu à ça un ajout assez remarquable, merci, provenant d'une élue C'est pas simplement une manifestante ou une activiste, une élue de la Chambre des représentants, Maxine Waters de la Californie. Je nous fais entendre ses propos tenus au courant du week-end.
And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome.
Okay. Donc, autrement dit, une élue qui encourage quiconque à carrément empêcher à quelconque membre du cabinet Trump qu'on voit soit dans un restaurant, à une station-service, dans un lieu public, ce qu'elle encourage les gens à faire essentiellement, c'est à brasser du trouble.
Oui, exactement. Nuire carrément à leur existence.
Physiquement,
ouais.
s'il le faut. Et donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que les chefs de file de son parti, les chefs de file démocrates, sentent l'eau chaude et sortent pour condamner ces propos-là. Pour des raisons, évidemment, politique, pas pour des raisons morales, parce qu'on sait très bien que du côté démocrate, Donald Trump va se servir de ces propos-là à des fins qui vont l'avantager. Et d'ailleurs, on entend, on écoute Donald Trump en rallye devant ses partisans hier soir.
It's the party of Maxine Waters. Do you believe her? No, no. No, no. This has become the party of Maxine Waters and Nancy Pelosi. That's who it is. So they don't mind crime, they want open borders, we want really tough borders.
Bon, c'est sûr que ça va avoir l'air de la démagogie, à quelque part, ça en est, Paul. Mais en même temps, ça illustre le danger politique pour les adversaires de Donald Trump d'aller trop loin.
Oui.
Parce que là, il se sert de cet épisode-là pour dépeindre, en fait, la quasi-totalité de son opposition du
Parti
démocrate.
Et il réplique coup pour coup.
Et il réplique coup pour coup.
Coup pour coup.
Donc, c'est risqué.
Il s'en est pris au restaurant où Mme Sanders a été expulsée en disant... C'est malpropre à l'extérieur, les eaux vent font dur. Alors, imaginez-vous ce que ça a l'air à l'extérieur, entre guillemets, ce restaurant insalubre. À l'intérieur, quelle doit être la propreté? Ça, il a suggéré, autrement dit, en guise de revanche, là, que le restaurant n'était pas très propre.
Et en effet.
Finalement, le sénateur du Kentucky, Rand Paul, celui qui avait été sauvagement attaqué sur sa pelouse, l'automne dernier, par un voisin fou, intente une poursuite contre ce dernier. Et le voisin au nom très francophone.
Tu t'en rappelles, Paul?
René Boucher.
René Boucher. Donc, et je spécifie d'emblée, ça c'est assez fascinant, les deux types sont des docteurs. Rand Paul...
Ça, je savais pas ça, par exemple, que René Boucher était un docteur, le voisin.
Un ex-docteur. Et là, on s'entend qu'il n'y a peut-être plus une carrière très, très prometteuse devant lui après cet épisode-là. Donc, le type a agressé un sénateur en fonction.
Alors qu'il tondait la pelouse.
C'est exact. À l'automne dernier, évidemment, c'était extrêmement sérieux. Sérieux au point tel que Rand Paul avait 5 côtes fracturées, a passé plusieurs jours à l'hôpital. Et finalement, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il intente une poursuite formelle contre son voisin pour qu'il couvre à la fois ses factures médicales et légales.
C'était pas mal la suite logique. Hein,
ben, c'était la suite inévitable, on s'entend. Là.
Et il est où, René Boucher? Là? Il est plus calme, ben, j'espère.
Il va être en cours, je te dirais, pour les prochaines semaines.
Oh oui, de se défendre. Il verra pas ses patients. Merci beaucoup, Raphaël Jacob.